Cependant, tout s'était passé exactement comme je l'ai raconté. De cela, je suis certain. George Staub était arrivé et m'avait fait monter dans sa Mustang. Le vieux pote, d'Ichabod Crane, avec la tête recousue et non pas sous le bras, exigeant que je fasse mon choix. Et j'avais choisi. À la vue de la première maison éclairée à l'horizon, j'avais condamné ma mère presque sans hésiter. Ce qui pouvait se comprendre, mais ne diminuait en rien la culpabilité que je ressentais. Néanmoins, personne n'avait besoin de le savoir. C'était le seul avantage. Sa mort aurait l'air tout à fait naturelle, elle serait même tout à fait naturelle, et j'avais bien l'intention de tourner la page. Je sortis du cimetière par l'ornière de gauche, et lorsque mon pied heurta le sac, je le pris et le mis sur l'épaule. Des lumières apparurent au bas de la pente, comme à un signal donné. Je levai le pouce, étrangement convaincu qu'il s'agissait du vieux à la Dodge revenu me chercher, qu'il ne pouvait s'agir que de lui, que sa venue mettait la touche finale à l'histoire. Mais ce n'était pas lui. Je tombai sur un fermier chiqueur dans un pick-up Ford, dont l'arrière était plein de paniers de pommes, un type parfaitement ordinaire qui n'était ni vieux ni mort. « Et où tu vas, fiston ?» me demanda-t-il. Et quand je le lui eus dit, il ajouta « Ça tombe bien, moi aussi !» Moins de 40 minutes plus tard, à 21h20, il se garait devant le Central Maine Medical Center. « Bonne chance, mon gars. J'espère que ta mère ira mieux. « Merci, » dis-je en ouvrant la portière. « J'ai bien vu que tu t'inquiétais pas mal pour elle, mais je suis sûr qu'elle va s'en sortir. Tu devrais tout de même te faire désinfecter ça, » ajouta-t-il en montrant mes mains. Je baissai les yeux et vis les marques en forme de croissant, profondes et violacées, au-dessus de mes articulations. Je me rappelai alors comment mes mains s'étaient agrippées l'une à l'autre, mes ongles enfoncés dans ma chair et que j'avais été incapable de m'en empêcher. Et je me souvins des yeux de Staub, remplis d'une lumière lunaire au rayonnement aqueux. « Tu es monté dans le bolide ?» m'avait-il demandé. « Moi, j'en ai fait 4 tours. « Hé, piston ?» demanda le paysan au pick-up. « Tu te sens bien ? Hein ? Tu trembles de partout ?»« Ça va bien. Merci encore. » Je fis claquer la portière et m'engageai dans la large allée passant devant un alignement de fauteuils roulants dont les chromes brillaient au clair de lune. Je m'avançai jusqu'à l'accueil, me rappelant que je devais prendre un air surpris lorsqu'on me dirait qu'elle était morte, qu'il fallait que je prenne un air surpris, sinon il risquait de trouver cela curieux. À moins qu'il pense simplement que c'était le choc, ou que nous ne nous entendions pas très bien, ou... J'étais tellement plongé dans mes pensées que je dus demander à la réceptionniste de bien vouloir répéter ce qu'elle venait de me dire. « Elle est dans la chambre 487, » recommença-t-elle. « Mais vous ne pouvez pas aller la voir maintenant. Les visites se terminent à 21h. Mais... » Je me sentis soudain pris de tournée. Je m'agrippais au rebord du comptoir. Des néons éclairaient le hall. Et dans cette lumière intense qui ne laissait pas un coin d'ombre, les coupures au dos de mes mains ressortaient vivement, 8 petits croissants violacés, comme des sourires juste au-dessus des articulations. Le fermier avait raison, je devrais me les faire désinfecter. Derrière son comptoir, la réceptionniste me regardait sans s'impatienter. D'après la plaque posée devant elle, elle s'appelait Yvonne Ederl. Mais est-ce qu'elle va bien ? Elle consulta son ordinateur. On peut lire SS, cela veut dire état satisfaisant, et le quatrième est un service général. Si l'état de votre maman s'était dégradé, on l'aurait admise en soins intensifs, au troisième. Je suis sûr que lorsque vous reviendrez demain, vous la trouverez très bien. Les heures de visite vont de... C'est ma mère, protestai-je. Je suis venu en stop depuis l'université du Maine pour la voir. Est-ce que je ne pourrais pas monter ne serait-ce que quelques minutes ? On peut faire une exception pour la famille proche, répondit-elle avec un sourire. Attendez une seconde. Je vais voir comment on peut vous arranger ça. Elle décrocha son téléphone, composa un numéro à 2 chiffres, sans doute pour joindre l'infirmière responsable du 4e étage. Je croyais déjà voir le déroulement des 2 minutes suivantes comme si j'étais réellement doué de seconde vue. Yvonne, de l'accueil, allait demander si le fils de Jean Parker, chambre 487, pouvait monter voir sa mère 1 minute ou 2, le temps de l'embrasser et de lui prodiguer quelques mots d'encouragement. Et l'infirmière répondrait « Oh mon Dieu, Mrs. Parker est morte il y a 1 quart d'heure, on vient juste de l'envoyer à la morgue. Nous n'avons pas encore eu le temps de mettre l'ordinateur à jour. Mon Dieu, c'est terrible !» Ou quelque chose comme ça. « Muriel, dit la réceptionniste, c'est Yvonne. Un jeune homme vient de se présenter ici. Il s'appelle... » Elle me regarda, sourcils arqués, et je lui donnai mon prénom. « Alan Parker. C'est le fils de Jean Parker au 487. Il aimerait juste la voir. » Elle s'interrompit, écouta. Sans aucun doute, l'infirmière du quatrième était-elle en train d'expliquer que Jean Parker était morte. « Très bien, » dit finalement Yvonne. « Oui. Je comprends. » Elle resta tranquillement assise un moment, le regard perdu dans le vague. Puis après avoir posé le micro du téléphone contre son épaule, me dit « Elle a envoyé Anne Corrigan jeter un coup d'œil pour savoir comment elle va. Il y en a pour une seconde. » « Ça n'en finit pas, » marmonnai-je. Yvonne fronça les sourcils. « Pardon ?»« Rien. La journée a été longue et vous êtes inquiet pour votre maman. Bien sûr, vous êtes sans doute un très bon fils pour avoir tout planté là et accourir ainsi. » La haute opinion qu'Yvonne Eder avait de moi en aurait pris un sérieux coup si elle avait entendu la fin de ma conversation avec l'homme à la Mustang. Mais voilà, elle s'était déroulée sans témoin. C'était un petit secret entre Georges et moi. J'eus l'impression d'attendre des heures, sous les néons trop brillants, que l'infirmière du quatrième veuille bien reprendre la ligne. Quelques papiers étaient disposés devant Yvonne. Elle parcourut l'un d'eux de la pointe de son stylo, cochant soigneusement certains noms, et je me dis que s'il existait réellement un ange de la mort, il serait certainement comme cette femme, un fonctionnaire surchargé de travail derrière un bureau avec son ordinateur et trop de paperasse à remplir. Yvonne gardait le combiné coincé entre l'oreille et l'épaule, se tordant le cou. Un haut-parleur réclama la présence du docteur Farquhar en radiologie. Le docteur Farquhar est demandé en radiologie. Au quatrième, une infirmière du nom d'Anne Corrigan devait être en train de contempler ma mère, morte dans son lit, les yeux grands ouverts, la grimace provoquée par la première hémorragie cérébrale enfin effacée. La réceptionniste se redressa. On parlait sur la ligne. Elle écouta, puis dit « Très bien. J'ai compris. Je vais le faire. Bien sûr. Je vais le faire. Merci, Muriel. » Elle raccrocha et me regarda, l'expression sérieuse. « Vous pouvez monter, mais pas plus de 5 minutes. On a déjà donné ces calmants à votre maman et elle est très somnolente. » Je restai planté là, bouche bée. Son sourire s'atténua un peu. « Vous êtes sûr que vous allez bien, Mr. Parker ?»« Oui. » »« Je crois juste que je m'étais dit. » Son sourire revint chargé de sympathie cette fois. « Cela arrive souvent, c'est compréhensible. On vous appelle à un moment où vous ne vous y attendez pas. » Vous vous précipitez ici, c'est normal de penser au pire. Mais Muriel ne vous laisserait pas monter si votre mère n'allait pas bien. Faites-moi confiance. Merci. Merci beaucoup. Je m'apprêtais à m'éloigner lorsqu'elle me rappela. « Mr. Parker, étant donné que vous venez de l'université du Maine, dans le Nord, comment se fait-il que vous portiez ce pins ?»« Swill Village se trouve bien dans le New Hampshire, non ?» Je baissai les yeux sur ma chemise et vis en effet un pin's agrafé à ma poche de poitrine. Je suis monté dans le bolide à la foire de Laconia. Je me rappelais avoir pensé qu'il voulait m'arracher le cœur. À présent, je comprenais. Il avait agrafé ce pin's sur ma chemise juste avant de me pousser dans la nuit. Ainsi avait-il apposé sa marque sur moi. Ainsi avait-il rendu impossible de ne pas croire à notre rencontre. C'était déjà ce que disaient les écorchures sur mes mains. Il m'avait demandé de choisir, et j'avais choisi. Mais alors, comment se faisait-il que ma mère soit encore en vie ? Ça, je le touchais du gras du pouce, le polissant même un peu, c'est mon porte-bonheur. Mensonge tellement horrible qu'il en était splendide. Je l'ai eu quand j'ai été là-bas avec ma mère, il y a très longtemps. Elle m'a laissé monter sur le bolide. Yvonne, la réceptionniste, sourit comme si c'était la chose la plus touchante qu'elle ait jamais entendue. « Embrassez-la bien fort, » me dit-elle. « Vous voir l'aidera à s'endormir beaucoup mieux que toutes les pilules du docteur. » Elle fit un geste de la main. « Les ascenseurs sont par là, après le coin. » L'heure des visites étant dépassée, j'étais le seul à attendre une cabine. J'aperçus une corbeille à papier à côté du kiosque à journaux fermé pour la nuit. Je décrochai le pin's et le jetai. Puis je me frottai la main sur le pantalon. Je la frottai encore lorsque les portes de l'un des ascenseurs s'ouvrirent. J'entrai et appuyai sur 4. La cabine commença à monter. À côté des boutons de commande, il y avait une affichette annonçant un don du sang pour la semaine suivante. Pendant que je la lisais, une idée me vint à l'esprit. Une idée, c'est beaucoup dire. Une certitude, plutôt. Ma mère était en train d'expirer à cette seconde même. Pendant que j'étais prisonnier de cet ascenseur qui montait avec une désespérante lenteur, j'avais choisi. Il me revenait de la trouver morte. C'était logique. La porte, en s'ouvrant, donnait sur une autre affichette où l'on voyait un doigt devant une bouche dessiné dans le style BD. Dessous, on lisait « Nos patients apprécient votre discrétion ». Un corridor partait des deux côtés du palier des ascenseurs. Les chambres impaires étaient à gauche. Je partis donc par là. Mes tennis me donnaient l'impression d'être plus lourdes à chaque pas. Je ralentis quand j'atteignis les premières chambres, puis m'immobilisai complètement entre le 481 et le 483. C'était au-dessus de mes forces. Une transpiration aussi froide et gluante que du sirop à demi congelé s'insinuait en minces filets dans mes cheveux. J'avais l'estomac noué comme un poing serré dans un gant visqueux. Vraiment au-dessus de mes forces. Il valait mieux faire demi-tour et prendre la poudre d'escampette comme l'ignoble froussard que j'étais. Je repartirai en stop pour Harlow et j'appellerai Mrs. McCurdy dans la matinée. Il serait plus facile d'affronter les choses à la lumière du jour. J'entamais déjà mon demi-tour lorsqu'une infirmière passa la tête par la porte de chambre plus loin. Celle de ma mère. « Mr. Parker ?» demanda-t-elle à voix basse. Un instant, je faillis répondre que non. Puis j'acquiesçai. « Entrez vite, elle plonge !» Et voilà, les mots que j'attendais. Ils ne s'en traduisirent pas moins par une crampe de terreur qui me mit les jambes en coton. Ce que vit l'infirmière qui se précipita vers moi dans le froufroutement de sa jupe l'air inquiet. Le petit badge doré à son corsage annonçait qu'elle s'appelait Anne Corrigan.
« Non, non, je voulais juste dire que l'effet des sédatifs commence à se faire sentir. Elle va très bien, Mr. Parker. Je lui ai simplement donné ses cachets il y a un moment, et elle va s'endormir, c'est tout. Vous n'allez tout de même pas vous évanouir, n'est-ce pas ?»
Elle me prit par le bras.
« Non, »
répondis-je, ne sachant pas si j'allais tomber ou non dans les pommes. Le monde vacillait, mes oreilles bourdonnaient. Je me rappelais la route bondissant à la rencontre de la Mustang, une route de film en noir et blanc, dans cette lumière argentée qui baignait tout. « T'es monté dans le bolide ? Moi, j'en ai fait 4 tours de cette connerie !» Anne Corrigan me conduisit dans la chambre, et je vis ma mère. Elle qui était grosse depuis si longtemps, elle paraissait petite et presque menue dans ce lit d'hôpital pourtant étroit. Elle y avait l'air un peu perdue. Ses cheveux, plus gris que noirs, étaient déployés sur l'oreiller. Ses mains posées sur le drap étaient comme celles d'un enfant, ou même d'une poupée. Ses lèvres n'étaient pas déformées par la grimace de paralysie que j'avais imaginée, mais son teint était jaunâtre. Elle avait les yeux fermés. Elle les ouvrit cependant dès que l'infirmière murmura son nom. D'un bleu profond, iridescent. Ils étaient ce qui restait de plus jeune en elle, et parfaitement vivant. Un instant, ils regardèrent dans le vague, puis ils me trouvèrent. Elle sourit et essaya de me tendre les bras. L'un d'eux lui obéit, mais l'autre trembla, se leva un peu et retomba sur le drap.
« Al !»
murmura-t-elle. Je m'approchai d'elle, commençant à pleurer. Il y avait bien une chaise contre le mur, mais je ne pris pas la peine de la tirer. Je m'agenouillai sur le sol et passai mes bras autour d'elle. De son corps tiède, se dégageait une odeur de propre. Je l'embrassai sur la tempe, sur la joue, sur le coin des lèvres. Elle leva sa main valide et passa un doigt délicat sous l'un de mes yeux. « Ne pleure pas, » murmura-t-elle. « C'est pas la peine. » Je suis venu dès que j'ai appris la nouvelle. C'est Betsy McCurdy qui m'a appelé. Je lui avais dit « le week-end ». « Que le week-end, ce serait très bien. » « Ouais. » « Je t'en ficherai des week-ends, » répondis-je, la serrant plus fort contre moi. « Ta voiture ? Réparée ? Non ? J'ai fait du stop. Oh, bon sang !» Chaque mot lui coûtait visiblement. Mais elle articulait normalement et ne manifestait ni affolement ni désorientation. Elle savait qui elle était, qui j'étais, où nous étions et pour quelles raisons. Le seul signe que quelque chose n'allait pas était son bras gauche sans force. Je ressentis un énorme soulagement. Dans le genre sinistre canular, celui de George Staub était particulièrement cruel. Ou peut-être n'y avait-il jamais eu de George Staub. Peut-être tout cela n'avait-il été qu'un rêve, en fin de compte, si stupide fut-il. À présent que j'étais ici, agenouillé près de son lit, la tenant dans mes bras, humant un reste de son parfum lanvin, l'hypothèse du rêve paraissait beaucoup plus plausible.
« Al, tu as du sang sur le col de ta chemise. »
Ses yeux roulèrent et se fermèrent, puis se rouvrirent lentement. J'imaginais que ses paupières devaient lui paraître aussi pesantes que mes tennis m'avaient paru lourdes dans le couloir. « Je me suis cogné la tête, maman, c'est rien. »«
Bon, il faut que tu fasses attention à toi. »
Ses paupières s'abaissèrent de nouveau, puis se relevèrent, mais plus lentement.
« Mr. Parker, je crois qu'on devrait la laisser dormir à présent, » dit l'infirmière dans mon dos. « Elle a eu une journée extrêmement difficile. »
« Je sais, » répondis-je en l'embrassant une dernière fois sur le coin de la bouche.
« Je m'en vais, maman, mais je reviendrai demain. »« Fais pas de stop. Dangereux. »
« Promis. Je demanderai à Mrs. McCurdy de m'emmener. »« Dors bien ?»«
Je fais que ça. J'étais au travail. Je vidais le lave-vaisselle. Je me suis mise à avoir très mal à la tête.
Je suis tombée. »
Me suis réveillé ici.
Une attaque.
Pas trop grave, a dit le docteur.
Tu vas très bien. Je me levai, puis lui pris la main. Sa peau était fine, aussi lisse que de la soie mouillée. Une main de personne âgée.
J'ai rêvé qu'on était tous les deux à cette foire, dans le New Hampshire,
reprit-elle. Je la regardais, sentant un frisson glacé me parcourir de la tête aux pieds.
« Vraiment ?»« Oui. On faisait la queue pour ce truc qui monte très haut. Tu t'en souviens ?»«
Le bolide ?»«
Oui, je m'en souviens, maman.
Tu avais peur et j'ai crié après toi. »«
Mais non, maman, tu... »
Sa main serra la mienne et les coins de ses lèvres s'étirèrent, creusant presque des fossettes. Le fantôme de sa vieille expression d'impatience.
« Si. J'ai crié, et je t'ai donné une claque. Derrière la tête, non ?»«
Oui, sans doute, » répondis-je, renonçant à la contrarier. « C'était presque toujours là. »«
J'aurais pas dû. » »« Il faisait chaud et j'étais fatigué, mais pourtant, j'aurais pas dû. »« Voulais te dire, je suis désolé. »
Mes yeux se remirent à avoir une fuite.
« Pas de problème, maman. C'était il y a longtemps. » Tu n'es jamais monté sur cette attraction.
Si, en fin de compte, j'y suis monté. Elle me sourit. Elle paraissait petite et faible à des années-lumière de la femme imposante, en colère et en sueur, qui m'avait crié après quand nous étions finalement arrivés en tête de la file d'attente. Qui m'avait crié après et envoyé une claque sur la nuque. Sans doute avait-elle dû voir quelque chose sur un visage, celui d'une autre personne attendant son tour, car je me souvenais de l'avoir entendu grogner à quelqu'un. « Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça ?» Tandis qu'elle m'entraînait en me tenant par la main et que je reniflais sous le brûlant soleil de l'été, me frottant la nuque. À vrai dire, cela ne me faisait pas vraiment mal. Elle n'avait pas frappé bien fort. Je me souvenais avant tout de la gratitude que j'avais éprouvée en m'éloignant de cette construction gigantesque et tourbillonnante, avec ses capsules au debout, cette machine à faire pousser des cris.
« Il faut vraiment partir à présent, Mr. Parker, » dit l'infirmière.
Je soulevais la main de ma mère et l'embrassais sur les articulations.
« À demain, maman. »«
Je t'aime, maman. »«
Moi aussi, je t'aime, Alan. »« Désolé pour toutes les fois où je t'ai giflé. »«
C'est pas des façons. » Cependant, c'était les siennes, de façon. Cela avait toujours été les siennes. Je ne savais pas comment lui dire que je le savais et que je l'acceptais. C'était une partie de notre secrète famille. C'était quelque chose de purement viscéral.
On se revoit demain, maman, d'accord ?
Elle ne répondit pas. Ses yeux s'étaient de nouveau fermés et ses paupières, cette fois-ci, restèrent closes. Sa poitrine se soulevait lentement et régulièrement. Je m'éloignais du lit à reculons sans la quitter des yeux. Dans le couloir, je me tournai vers l'infirmière. « Elle va aller bien ? Tout à fait bien ?»«
Personne ne peut le dire avec certitude, Mr. Parker. C'est le docteur Nunnally qui s'occupe d'elle, un excellent médecin. Il sera là demain après-midi, et vous pourrez lui demander non. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. »
« Je crois qu'elle va aller bien, » répondit Anne Corrigan, tout en me raccompagnant jusqu'aux ascenseurs. Ses signes vitaux sont tout à fait satisfaisants, et les effets résiduels permettent de penser que l'hémorragie a été très faible. Elle fronça un peu les sourcils. Il faudra cependant qu'elle change certaines choses dans son régime alimentaire et son mode de vie.
Vous voulez dire qu'elle devrait arrêter de fumer ?
Oh oui, c'est impératif !
Elle dit cela comme si, pour ma mère, renoncer à cette habitude de toute une vie allait être aussi facile que de transporter un vase de la table de la salle à manger à celle de l'entrée. J'enfonçai le bouton d'appel et les portes de la cabine par laquelle j'étais monté s'ouvrirent immédiatement. Tout était beaucoup plus calme dans l'hôpital après les heures de visite. «
Merci pour tout, » dis-je.
« Pas du tout. C'est moi qui suis désolé de vous avoir fait peur. C'était complètement idiot de vous dire ça.
Mais non, » dis-je, même si j'étais d'accord avec elle.
« N'en parlons plus. »
J'appuyai sur le bouton du rez-de-chaussée. Anne Corrigan leva la main et agita les doigts. Je lui répondis de même, et les portes se refermèrent. La cabine s'ébranla. Je me mis à contempler les marques d'ongles au dos de mes mains, et me dis que j'étais un être ignoble, le plus ignoble des êtres. Même si tout ça n'avait été qu'un rêve, je n'en étais pas moins le dernier des derniers. « Prends-la !» avais-je dit. C'était ma mère, mais je n'en avais pas moins dit « Prends-la, ne me prends pas moi !» Elle m'avait élevé, avait fait des heures sup pour moi, avait poireauté avec moi sous un soleil de plomb dans un parc d'attractions poussiéreux du New Hampshire. Mais au bout du compte, c'est à peine si j'avais hésité. « Prends-la, ne me prends pas !»«
Tu n'es que de la merde, un tas de merde !»
Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, je sortis et me dirigeai droit sur la corbeille à papier. Je soulevai le couvercle mobile et il était là, au fond d'une coupelle à café en carton pratiquement vide. Je suis monté dans le bolide à la foire de la Cogna. J'allais repêcher le pins dans sa flaque de café froid, l'essuyai sur mon jean et le glissai dans ma poche. Le jeter n'était pas la bonne solution. Il m'appartenait à présent. Porte-bonheur ou porte-malheur, il était à moi. Je quittai l'hôpital, saluant Yvonne de la main au passage. Dehors, la lune était installée au zénith, noyant l'univers de sa lumière étrange du pays des songes. Jamais je ne m'étais senti aussi fatigué et démoralisé de toute ma vie. J'aurais aimé avoir de nouveau le choix. Je n'aurais pas fait le même. Ce qui avait quelque chose de comique. L'aurais-je trouvée morte, comme je m'y étais attendu, je pense que j'aurais pu vivre avec. Après tout, c'est bien ainsi, en principe, que finissent les histoires de ce genre, non ?
« Y a personne qui te prend en ville », avait dit le vieux bonhomme au bandage hernière, et comme il avait raison. Je traversais tous les Whiston, autrement dit, 3 douzaines de pâtés de maisons sur Lisbon Street et 9 de plus sur Canal Street, en passant devant tous les abreuvoirs du coin avec leur jukebox jouant de vieux airs de Led Zeppelin ou AC/DC en français, sans lever le pouce une seule fois. Cela n'aurait servi à rien. Il était 11 heures du soir, largement passé, lorsque j'atteignis le pont de Mute. Une fois du côté de Harlow, la première voiture à qui j'adressai mon signal s'arrêta. 40 minutes plus tard, je récupérai la clé sous la brouette rouge, toujours fidèlement au poste, à côté de l'apprenti du fond. Et 10 minutes plus tard, j'étais au lit. Il me vint à l'esprit, au moment où je sombrais dans le sommeil, que c'était la première fois de ma vie que je dormais seul dans cette maison. C'est le téléphone qui me réveilla, à 12:15. Je me dis que ce devait être l'hôpital, que quelqu'un de l'hôpital allait me dire que l'état de ma mère avait brusquement empiré et qu'elle venait de mourir quelques minutes auparavant. Désolé. Mais ce n'était que Mrs. McCurdy qui s'assurait que j'étais bien arrivé à la maison et qui voulait savoir les détails de ma visite la veille. Elle me les fit répéter 3 fois, et à la fin de la 3e, je commençais à me sentir comme un criminel accusé de meurtre. Elle me demanda ensuite si je ne voulais pas aller en voiture à l'hôpital avec elle cet après-midi. Je lui répondis que c'était une idée géniale. Après avoir raccroché, je passai devant une psyché pour regagner ma chambre.
j'aperçus dedans un grand jeune homme, mal rasé, avec un début de bedaine, habillé d'un caleçon informe. « Va falloir te reprendre, mon vieux, » dis-je à mon reflet. « Tu vas pas passer le reste de ta vie à te dire que chaque fois que le téléphone sonne, c'est pour t'annoncer la mort de ta mère. » À vrai dire, ça n'arriverait pas. Le temps finit par atténuer les souvenirs. Le temps fait toujours ça. Mais celui que je gardais de la nuit précédente, cependant, restait stupéfiant de précision et de réalisme. J'en voyais le moindre détail avec une netteté confondante. Le jeune et beau visage de George Stubb, par exemple, avec sa casquette verte tournée à l'envers, la cigarette derrière l'oreille, la façon dont la fumée ressortait en minuscules volutes par les points de suture à son cou quand il inhalait. Je l'entendais encore me raconter l'histoire de la Cadillac à $750. Le temps allait émousser les angles, mais pas avant un moment. Après tout, j'avais le pins, et il était posé sur le buffet à côté de la porte de la salle de bain. Ce pins était mon souvenir. Les héros d'une histoire de fantômes ne reviennent-ils pas toujours avec un objet souvenir, quelque chose qui prouve que ce qu'ils ont vécu est réellement arrivé? Il y avait une vieille stéréo dans un coin de la pièce et je me mis à fouiller parmi mes anciens enregistrements pour en écouter un en me rasant. Je me décidai finalement pour un pot-pourri intitulé « Folk Mix » que je mis dans le lecteur de cassette. Je l'avais enregistré alors que j'étais encore au lycée et n'avais qu'une vague idée de ce qu'il contenait. Bob Dylan se mit à chanter la mort solitaire de Hattie Carroll, Tom Paxton, les déboires de son vieux pote radoteur, puis Dave Van Ronk, son blues sur la cocaïne. Au milieu du troisième couplet, je m'immobilisais, le rasoir en l'air. J'ai la tête pleine de whisky et le ventre plein de gin, disait-il de sa voix rauque. Le médecin dit que ça va me tuer, mais il dit pas quand. Et la réponse était là. Évidemment. Ma conscience coupable m'avait conduit à croire que ma mère allait mourir tout de suite, ce que Stubb n'avait rien fait pour dissiper. Et comment aurait-il pu penser à le faire puisque je ne lui avais pas posé la question? Mais je m'étais manifestement trompé. Le médecin dit que ça va me tuer, mais il dit pas quand. Au nom du ciel, pourquoi avais-je besoin de battre ma culpe? Mon choix ne revenait-il pas au fond à respecter l'ordre naturel des choses? Est-ce que les enfants ne survivent pas de manière générale à leurs parents? Ce fils de pute avait essayé de me flanquer la frousse, de tout faire pour me culpabiliser, mais je n'étais pas obligé de couper dans ses salades, si? Est-ce que nous ne montons pas tous dans le bolide, en fin de compte? Tu cherches simplement à te dédouaner, vieux, à trouver un moyen de te donner bonne conscience. Ce que tu te racontes est peut-être vrai, sauf que lorsqu'il t'a demandé de choisir, tu l'as choisi, elle. Il n'y a aucun moyen d'annuler ça, mon garçon. Aucun. J'ouvris les yeux et contemplai mon visage à demi rasé dans le miroir. J'ai fait ce que j'avais à faire, dis-je. Je n'y croyais pas complètement, mais avec le temps, je finirais par arriver à m'en persuader, sans doute. J'allais donc avec Mrs. McCurdy voir ma mère, qui allait un peu mieux. Je lui demandais si elle se souvenait encore de son rêve, celui où elle était à Thrill Village, à Laconia. Elle secoua la tête. « C'est à peine si je me souviens que tu es venu hier au soir. Je tombais de sommeil. C'est important ?»« Pas du tout, » dis-je en l'embrassant sur la tempe. « Pas du tout. » M'en sortit de l'hôpital 5 jours plus tard. Elle boita un peu pendant quelque temps, mais cela aussi disparut, et un mois plus tard, elle avait repris son travail à mi-temps au début, puis rapidement à plein temps, comme si rien n'était arrivé. Je retournais à la fac et décrochais un petit boulot chez Pat's Pizza, dans le centre d'Orono. Je ne gagnais pas grand-chose, mais cela me suffit pour faire réparer ma voiture. Un soulagement. J'avais perdu le peu de goût que j'avais jamais eu pour l'autostop. Ma mère essaya d'arrêter de fumer et y parvint pendant un certain temps. Lorsque je revins en avril pour les vacances de Pâques avec un jour d'avance, je trouvais la cuisine aussi enfumée que par le passé. Elle me regarda avec dans les yeux autant de honte que de défi. « Je peux pas, » me dit-elle. « Je suis désolée, Al. Je sais que tu voudrais que j'arrête, je sais que je devrais, mais ma vie est tellement vide sans ça. Rien ne la remplit. Tout ce que j'arrive à me dire, c'est que je n'aurais jamais dû commencer. » Deux semaines après que j'eus obtenu mon diplôme, elle eut une nouvelle attaque, rien qu'une petite. Son médecin se fâcha et elle essaya une fois de plus d'arrêter de fumer, mais elle prit 20 kilos et se remit finalement à la cigarette. Comme un chien retourne à son vomi, lit-on dans la Bible. Une citation qui m'a toujours plu. Je décrochais un excellent travail à Portland dès ma première tentative, un coup de chance, je crois, et me lançais dans une délicate entreprise, la convaincre d'arrêter de travailler. Ce ne fut pas facile. J'aurais pu finir par y renoncer, dégoûté, mais il y avait un certain souvenir qui m'obligeait à continuer de saper ses défenses de Yankee entêté. « Tu ferais mieux de faire des économies pour plus tard au lieu de t'occuper de moi, » me dit-elle une fois. « Tu vas vouloir te marier un jour, Al. Et ce que tu voudrais dépenser pour moi te manquera, pour ta vraie vie. »« Mais tu es ma vraie vie, » lui répondis-je en l'embrassant. « Que ça te plaise ou non, c'est comme ça et pas autrement. » Et finalement, elle jeta l'éponge. Nous eûmes quelques bonnes années par la suite, 7 en tout. Je n'habitais plus avec elle, mais je la voyais presque tous les jours. On faisait d'interminables parties de gin rummy, on regardait tout un tas de films en vidéo sur le magnétoscope que je lui avais acheté. On se payait de belles tranches de rigolade, comme elle aimait à le dire. J'ignore si c'est à George Staub ou non que je dois toutes ces années, mais ce furent de bonnes années. Quant au souvenir que je conservais de la nuit où j'avais rencontré l'homme à la Mustang, il ne s'émoussa jamais, ne se réduisit jamais à un rêve, comme je m'y étais pourtant attendu. Il me restait dans ses moindres détails, du vieux monsieur me demandant d'adresser un vœu à la lune des moissons, au moment où j'avais senti les doigts de Staub tripotant la poche de poitrine de ma chemise. Puis vint un jour où je ne retrouvais plus le pins. Je savais que je l'avais encore lorsque j'avais déménagé dans le petit appartement que j'occupais à Falmouth. Je l'avais mis dans le tiroir de ma table de nuit au milieu de quelques peignes, de mes deux jeux de boutons de manchette et d'un badge sur lequel on lisait « Bill Clinton, the Safe Sax President ». N'empêche, celui de Laconia manquait. Et lorsque le téléphone sonna un ou deux jours plus tard, je compris tout de suite pourquoi Mrs. McCurdy pleurait. La mauvaise nouvelle à laquelle je n'avais cessé de m'attendre. Vivons joyeux, ce qui est pris est pris. Après l'enterrement, et lorsque la file apparemment interminable des personnes venues présenter leurs condoléances eut fini de défiler, je retournai dans la petite maison de Harlow où ma mère avait passé les dernières années de sa vie à fumer et à se bourrer de donuts saupoudrés de sucre glace. Autrefois, c'était Jean et Alan Parker contre le reste du monde. Désormais, ce n'était plus que moi. Je triais ses effets personnels, je mis de côté les quelques papiers dont j'allais devoir m'occuper par la suite, plaçais dans des cartons, d'un côté de la pièce les choses que je voulais conserver, de l'autre celles que je voulais donner à un organisme caritatif. J'en avais presque terminé, lorsque je me mis à genoux pour regarder si rien ne traînait sous le lit. Et il était là. L'objet que je recherchais depuis si longtemps sans vouloir le reconnaître, un pins poussiéreux sur lequel on lisait « Je suis monté dans le bolide à la foire de Laconia ». Je le pris dans mon poing fermé. L'aiguille s'enfonça dans ma chair et je serrai encore plus fort, prenant un plaisir amer à ressentir la douleur. Lorsque je rouvris la main, mes yeux étaient remplis de larmes et je voyais les lettres, en double, comme dans un brouillard scintillant, ou comme si je regardais un film en 3D, sans les lunettes. « Alors ? Tu es content ?» demandai-je à la pièce vide. « Cela te suffit ?» Bien entendu, il n'y eut aucune réponse. « Pourquoi t'être donné tout ce mal ?»« À quoi ça rimait ?» Toujours pas de réponse. Et pourquoi y en aurait-il une ? On attend son tour, un point c'est tout. On attend son tour sous le clair de lune et on fait un vœu dans sa lumière morbide. On attend son tour et on les entend crier. Ils paient pour avoir peur quand ils montent dans le bolide. Ils en ont pour leur argent. Et quand vient votre tour, vous montez, peut-être. Ou vous prenez la poudre d'escampette. Cela revient au même, je crois. Il devrait y avoir autre chose, mais non. Pas vraiment. Vivons joyeux. Ce qui est pris est pris. Prends ton pins et tire-toi d'ici.